Emmené par des rescapés de la tuerie de Parkland en Floride aux États-Unis le 16 février, le hashtag Never Again, plus jamais ça, se répand sur les réseaux sociaux. Objectif, faire pression sur les entreprises et le pouvoir politique pour renforcer le contrôle des armes à feu. Et depuis, plusieurs grandes entreprises ont déjà mis un terme au partenariat conclu avec la NRA, autrement dit avec le lobby pro-armes. Bonjour Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université de Paris 2. Vous êtes un spécialiste des États-Unis et vous avez beaucoup travaillé sur la question des armes aux États-Unis. Bonjour. Alors, on va commencer par la fin. Il est probable que ce mouvement qui existe sur les réseaux sociaux ne donne à peu près rien. En termes légaux, expliquez-nous pourquoi.
Il va donner à peu près rien parce que effectivement, puisqu'on va parler de la NRA tout à l'heure, c'est-à-dire une association qui défend le droit au second amendement qu'on détaillerait dans quelques secondes, bien déjà les réseaux sont actifs pour que le Congrès ne fasse rien et Paul Ryan, qui est le président de la Chambre des représentants, a annoncé hier soir d'ailleurs que la Chambre n'avait aucunement l'intention de voter la moindre loi pour limiter la diffusion des armes aux États-Unis, pour créer des régulations et même bien au contraire puisque dans les propositions actuellement, on propose d'étendre le droit de porter une arme cachée sur soi dans l'ensemble du pays, y compris dans les États qui l'ont interdit actuellement.
Donc ça ne changera rien. Expliquez-nous tout d'abord comment la NRA a été créée, pourquoi et aujourd'hui cette association est-elle aussi puissante ?
Alors la NRA, à l'époque de sa création et aujourd'hui, sont deux associations qui n'ont quasiment rien à voir, on va dire, puisque le 16 novembre 1871, quand elle est créée à New York, il s'agit de prendre en compte l'ensemble de ces milliers d'armes qui sont dans le pays après la guerre civile. Et beaucoup de gens qui les ont ramenées chez eux, qui sont revenus de cette guerre armés, ne savent pas s'en servir. Donc on a beaucoup de blessés, vraiment beaucoup, voire des morts. Donc certaines personnes qui sont un peu soucieuses de cela vont dire on va leur apprendre comment se servir des armes. Et puis les armes vont être utilisées par la suite pour la chasse ou pour le sport. Et la NRA, au départ, est une association qui s'occupe de chasse et de sport et qui va prendre un petit peu d'ampleur, c'est vrai, avec la conquête de l'Ouest, au moment où la possession d'une arme aux États-Unis se justifie, puisque effectivement, quand on arrivait dans cet Ouest sauvage, il n'y avait pas d'armée, pas de police, il fallait bien se défendre tout seul. Et donc, c'est les fameux westerns où on voit que chacun avait son revolver pour pouvoir se défendre, pas simplement pour faire des duels au milieu de la grande de rue en sortant du saloon.
Alors donc, à l'époque, il s'agissait d'encadrer l'usage des armes. Ensuite, il y a le tournant politique de la NRA et celui-ci, il intervient à la fin des années 60.
C'est ça. On a plusieurs étapes à la fin des années 60. D'abord, 1968, c'est une année très particulière puisque les mouvements de protestation sont forts dans le pays et en particulier les Black Panthers, un groupe de radicaux noirs à Oakland, décident de sortir en bande armée avec des armes chargées. Et c'est autorisé à l'époque. Et le gouverneur de l'époque de Californie, Ronald Reagan, le futur président, va s'opposer à eux et va restreindre le droit des armes. Donc vous voyez, on a bien un républicain à cette époque-là qui restreint le droit des armes. Mais la NRA, à l'époque, est d'accord, dans un premier temps. Elle est d'accord pour que Johnson, qui va faire passer une loi, justement, première restriction des armes, le Gun Act en 1968, le vice-président de la NRA, à l'époque, explique qu'aucun Américain en conscience, ne peut être contre. Souvenons-nous, quelques années auparavant, le président Kennedy a été tué par balle, mais à part lui, ce sont des années violentes. Martin Luther King, Malcolm X, Robert Kennedy, le nombre de morts politiques très connus se succèdent. Donc il y a une volonté très forte à ce moment-là de restreindre le droit des armes aux États-Unis. Deuxième étape, c'est 1977, c'est la révolution de Cincinnati, quand cette association se fait dépasser en son sein par des gens qui sont dans ce débat sur le second amendement comporté les Black Powers, les Black Panthers à ce moment-là, en demandant le droit de respecter les armes, en disant, mais si on restreint le droit de porter une arme, ça va toucher nos membres. Donc, ils s'intéressent de plus près au second amendement et c'est vraiment il y a 40 ans que cette histoire du second amendement émerge brutalement sur la scène politique. Et l'association va depuis se transformer en association politique et lobbyiste pour pouvoir influer sur les décisions au Congrès et donc va se mettre à financer les campagnes des différents élus en se disant, ils nous rendront l'appareil par la suite en bloquant les lois qui ne nous intéressent pas.
Des exemples, Jean-Éric Brana, de ce financement par la NRA des campagnes des élus.
Ah ben le plus connu actuellement, c'est Donald Trump qui, pour sa campagne, a reçu près de 30 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. On se souvient, Emma Gonzalez l'a dit dans sa déclaration. Elle a dit « Combien avez-vous reçu ?» Mais je le sais, 30 millions de dollars. Mais je parlais tout à l'heure de Paul Ryan. Il a lui-même reçu 5 millions de dollars de la NRA. Donc on n'est pas surpris aujourd'hui, ou plutôt hier soir, qu'il ait fait une telle déclaration. En général, ils reçoivent entre 3 000 et 10 000 dollars pour une campagne.
Et du coup, l'industrie des armes, qui n'est pas donc la NRA, permet aujourd'hui à un certain nombre de candidats également d'être financés. Elle permet aussi aux Américains d'acheter à vil prix un pistolet, c'est quoi, moins de 100 dollars?
Ah oui, c'est moins de 100 dollars. Vous allez dans une foire aux armes, vous l'avez pour trois fois rien. Je vois, il y a trois semaines, j'étais à Fort Lauderdale dans une foire aux armes. On voyait des revolvers à 40 dollars. Donc, c'est rien du tout. Il faut comprendre, hein, 32 euros, hein, enfin, qui les a pas aujourd'hui, c'est très facile. Mais là, on est sur un petit revolver à un coup. Vous voyez, on va dire, on fait pas beaucoup de mal.
Et puis, une fois que j'ai mon revolver, j'ai la possibilité d'adhérer à la NRA qui m'offre un certain nombre de services. J'ai là une brochure de la NRA qui me dit, par exemple, que si j'ai commis un meurtre, si j'ai tiré avec mon arme, eh bien la NRA me prodigue par exemple des conseils judiciaires, m'envoie un avocat, tout ça gratuitement.
Tout ça gratuitement pour les 40 dollars. Alors c'est même avant d'avoir l'arme. Quand vous rentrez dans une foire aux armes par exemple, dans le prix d'entrée, vous avez déjà une réduction pour adhérer à la NRA et on vous propose de le faire dans toutes les foires
aux
armes.
C'est cher d'adhérer à la NRA.
40 dollars.
À 40 dollars.
Et avec 40 dollars, vous êtes totalement. Alors vous avez toute une documentation. Vous voyez, moi j'en ai ramené plein là devant vous aujourd'hui, mais vous recevez régulièrement des informations. Et puis vous êtes très bien couvert, sans compter que vous avez, on en a pas mal parlé, pas mal de réductions pour les compagnies aériennes, pour louer une voiture, pour... Mais ceci dit, toutes les associations américaines très connues le font. Par exemple, la AAA, celle des automobilistes, fait exactement la même chose.
Alors, je n'aimerais pas trop utiliser d'humour macabre. Il y a des lieux où vous avez le droit d'avoir une arme et d'autres où vous n'avez pas le droit. Les principaux lieux, en fait, où vous avez le droit d'avoir une arme en Amérique sont des lieux privés tels qu'une voiture, tels qu'un domicile. Par exemple, évidemment, à l'école, on n'a pas le droit d'avoir une arme.
Non, on n'a pas le droit d'avoir une arme, sauf si on est autorisé dans certains États. Hein. Au Texas, on a le droit à l'université. Dans le Mississippi, on a droit à l'école. L'Ohio l'autorise à certains de ses enseignants. Et puis, depuis hier, la Floride a proposé la même chose pour les enseignants. Mais en général, c'est vrai qu'à l'école, on n'y a pas droit. C'est effectivement votre lieu privé, votre maison. Là, vous avez le droit d'avoir une arme. Et j'ai un autre document, vous voyez, qui est fait par le gouvernement de Floride et qui explique comment vous pouvez tirer et même tuer aux États-Unis. On est de toute façon tout à fait légal. On vous explique que, par exemple, si quelqu'un veut prendre votre place de parking, c'est interdit. Vous voyez, un beau panneau avec marqué interdit de tirer. Par contre, si quelqu'un rentre chez vous en pleine nuit, il n'a rien à y faire et vous avez le droit. À ce moment-là, si vous le tuez, vous n'êtes responsable de rien.
Ce qui veut dire que la notion de légitime défense, et ça c'est essentiel dans la conception même du pacte social aux États-Unis et en France, est très différente.
Et c'est bien là-dessus qu'il faut poser le débat, puisqu'effectivement, ce n'est pas la question des armes, mais c'est la question globale de comment est-ce qu'on aborde la violence et le rapport des uns aux autres et de la sécurité et de la justice aux États-Unis. Il faudrait tout remettre en question et donc tout mettre à plat et pas simplement interdire ou autoriser telle ou telle arme.
Ce qui veut dire que au bout du compte, on voit bien que là, la question des bump stocks, c'est-à-dire des chargeurs automatiques qui permettent de tirer beaucoup de coups, et qui a été mis au devant de la scène par Donald Trump, est malheureusement un point de détail.
Vous voyez, vous parlez exactement comme un républicain à la NRA, c'est exactement ce qu'ils disent aussi. Je ne voulais pas vous faire injure si jamais vous êtes contre, mais c'est ce qu'ils disent. C'est un point de détail. En réalité, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc, si on se met à faire une régulation là-dessus, on va en faire une autre ailleurs. Et en réalité, où est la frontière?
Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 2 et vous avez notamment écrit « Trumpland, portrait d'une Amérique divisée aux éditions Priva », 7h25 sur France Culture.